faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Great war.
Roquet Rouge sur CFM.
Salut.
Salut.
Salut
à tous. Bonsoir.
Voici une super équipe des Roquets cette fois-ci.
Merci pour les autres fois, c'est sympa.
Non, je suis derrière.
C'est
ça, quoi.
Je suis là.
On est plus de trois. On est quatre. Cinq avec Tristan. Benjamin.
Bonsoir.
Salut. Amanda.
Hey.
Katia.
Salut.
Et Guillaume pour vous servir. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la 99e émission des Roquets.
Bientôt.
Je pense qu'on
aller aux urnes avant de fêter la centième, on va aller
c'est
voter.
Ça. C'est la dernière émission avant le premier tour, donc on va avoir un gros dossier sur les présidentielles
voilà, on va
dans
vous
cette émission-là.
Conseiller
hein.
Pour voter voilà, éclairé.
On va vous expliquer ce qu'il faut faire.
Voilà.
Et en attendant, c'est Amanda qui nous parle de politesse, c'est ça?
Voilà.
Bah oui, par politesse, il faut que je passe devant.
C'est logique, ça se tient.
Il n'y a pas une semaine qui passe, voire un seul jour, qu'on ne fait pas quelque chose par politesse. Prends par exemple l'apéro qu'on est en train de prendre entre hockey. En fin d'apéro, il reste toujours un seul chips ou une seule cacahuète au fond du bol. Oui, on vient de se jeter dessous au moment précis où ils ont été posés sur la table comme des sauvages. Mais oulala, personne n'ose manger le petit dernier par politesse. En France, être poli, c'est du savoir-vivre. On observe toutes certaines règles comportementales. On surveille ce qu'on dit. Parfois, on dit les choses sans vraiment les penser, ni les croire. Tout ça se fait par politesse. Mon hypothèse du jour, c'est que la politesse va finir par nous tuer. Aujourd'hui, nous constatons un vrai besoin de tisser les liens entre les différents membres de notre société. Or, il semble que l'on soit passé, ces dernières années, à un questionnement sur la possibilité même pour la population de notre pays de faire société. J'ai l'impression que les tendances individualistes soient en croissance. Ça arrange certaines personnes politiques malsaines, cherchant à nous diviser.
Pour mieux régner.
Ça arrange aussi les capitalistes qui cherchent à créer les besoins afin de nous vendre beaucoup plus de marchandises que ce dont nous avons besoin.
Pour mieux régner. Ça marche aussi.
Revenons à mon hypothèse.
Pour mieux régner.
C'est pas ça mon hypothèse. On pourrait comprendre que quand je dis « la politesse va finir par nous tuer », que je dis que la politesse est mauvaise, on me demandera « comment combattre l'esprit individualiste si on ne se dit même plus bonjour dans la rue, Amanda ?»
Putain de merde, on ajoutera.
Oh là 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 là. Pardon. J'ai une légère tendance à exagérer un peu, à parler trop vite parfois. Laissez-moi reformuler. Diriger son existence en fonction des codes sociétaux et des conventions est dangereux. Les sociétés changent, ces règles aussi. Mais nos besoins rudimentaires d'aimer et de sentir aimé ne changeront jamais. J'ai l'impression que certaines règles dites de politesse nous imposent des limites émotives. Mon exemple principal, c'est quand j'observe les gens qui n'osent pas déranger quelqu'un à un moment clé de sa vie. Je pense au moment de deuil ou à la maternité. Justement, ce sont rarement les moments que la personne en question souhaite être laissée seule. Elle a besoin de se sentir entourée, aimée. Je pense qu'on a cruellement besoin d'ignorer ces règles de la politesse à ne pas déranger les autres pour rentrer dans une relation réelle avec l'autre. Car si systématiquement nous estimons que solliciter quelqu'un pour leur proposer quelque chose de positif soit considéré un dérangement, bah nous nous éloignons de la réalité humaine, c'est-à-dire une réalité partagée et le besoin de l'autre. Donc, pour lier les différents membres de notre société, c'est à nous de commencer à tisser les liens au niveau individuel. La politesse va finir par nous tuer si nous laissons les codes sociétaux actuels, qui sont de plus en plus ancrés dans l'individualisme, nous dicter comment agir, penser ou parler. Votre mission pour cette semaine, Roquet, aussi, chers auditeurs, chers auditrices, votre mission, c'est d'oser déranger une personne que tu côtoies en proposant ton soutien, pour leur donner un compliment, ou même simplement pour leur demander des nouvelles. Et, attention, c'est un jeu, parce que tu gagneras un point par personne que tu déranges gentiment, et tu gagnes 3 points supplémentaires si cette personne est en deuil ou vient d'accoucher. Voilà. Parce que, selon moi, aimer les gens, c'est bien poli quand même.
Je te trouve très belle aujourd'hui, Amanda.
Ah, un point! Ah,
Ah, mais ça commence maintenant.
Non, mais c'est ça, un peu plus, c'est comme ça. Il faut les déranger, il faut oser aller envers l'autre. Voilà. Je trouve qu'on le fait pas assez souvent.
Ah.
Voilà.
J'ai une réserve un peu, je sais pas. Non, j'allais dire latine, mais non, les latins sont pas réservés, justement. Mm. Moi, je préfère la réserve un peu british, justement. Je sais pas. La retenue, un petit peu, quoi.
Voilà,
le fang, voilà, c'est ça.
Alors, c'est quand même Guillaume qui dit ça, alors que ça fait quoi 15 minutes avant le début de l'émission qu'il veut absolument parler de beat. Donc, la réserve british, un peu retenue.
Ouais, mais l'anglais parle vite de cul quand même, même s'il est flegmatique. Ouais. Dès qu'il a vu trois bières.
Oui, mais il a moins envie de parler de beat.
Mais ouais, c'est vrai qu'il est comme très international, très culturel. Je trouve cultivé, notre Guillaume.
Non, cette histoire de beat, c'était pour que les auditeurs comprennent la chose. C'était Amanda qui avait proposé.
Dans son contexte.
Ouais. Amanda avait proposé qu'on fasse un dossier beat, hein. Et moi, j'avais dit banco, ça nous changera un peu de la politique, tout ça. Et donc, moi, j'avais proposé.
Quoique.
J'avais préparé. Oui, aussi, il y a pas mal de blancs en politique. Mais, donc moi, j'avais préparé une chronique, tout ça vachement bien sur ce thème-là. Et puis là, j'arrive, dis, oh, mais non, on l'a pas fait. Non, finalement, j'étais pas sûr de moi. Prout, tout ça.
Bah,
j'ai pas osé déranger. C'est pas très poli, tout ça.
Voilà, on me confirme 21h le soir, la veille d'une émission.
Donc, bah, je me la mets sur l'oreille, moi, ma chronique. Voilà. Et puis voilà, je passe
coup,
à
votre chronique. On va parler présidentielle.
Et voilà, on peut aller présidentielle. Tant pis pour vous.
Après,
avant
un peu
tout
de
ça,
musique.
Avant tout ça, un peu de musique.
Ouais.
Parce que j'avais une musique qui allait avec ma chronique. Donc, ça, c'est de Chloé Lacan qui, en fait, elle a joué un concert au nez il y a quelques années.
Ah.
Et j'ai gardé le CD. C'est génial. Et ce morceau s'appelle Pas pareil.
Incroyable.
Je vis droite, fière, sans faire de bruit. J'avance avec mon temps, je dépense, j'investis, j'aime proprement, pleinement, sagement, durablement. Je ne hausse pas le ton, je ne quitte pas le rang, mais je me gonfle les seins, je me pulpe les lèvres, je maigris pour que le temps m'oublie et que le désir tienne. J'admire les planches à pain, j'engraisse les vendeurs de jeunesse, je pique, je coupe, je tire, je claque, ma thune entraîne, mais j'espère, tant que les rêves me portent, je ne m'arrête pas. Et la nuit, je fuis les garnisons, les troupeaux, les prisons. J'ai le cœur qui déborde d'une envie sourde et folle de n'être pas pareil. Je regarde la télé, je zappe, je me remplis, je ris, je râle, j'éructe, je pleure sur les didis. Je ne perds pas de temps, je me bouge, je ne bois pas ou peu. Je ne fume presque plus et je culpabilise. Alors, je me couche tôt pour être plus performante. Alors, je prends des cours pour être plus convaincante. Je me bourre de cachets quand la tristesse me nargue. Je m'adapte, j'optimise, je suis une fille sans faille. Mais j'espère, tant que les rêves me portent, je ne m'arrête pas. Et la nuit, je fuis les garnisons, les troupeaux, les prisons. J'ai le cœur qui déborde d'une envie sourde et folle de n'être pas pareil. Mais je consomme, donc je suis, je travaille, j'achète, je rembourse les crédits, je lèche les vitrines et je vis proprement, prudemment, poliment et longtemps. Je m'écrase, je file droit, je ne quitte pas le rang et je prie pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ceux que j'aime et puis les autres, des fois qu'il y aurait des comptes à rendre. Et je donne aux Kurdes, aux Tchadiens, aux Tchétchènes, même aux clodos du coin, histoire d'avoir une place au chaud pour moi. Là-haut, mais j'espère, je ne m'arrête pas. J'ai le cœur qui déborde. We'll be right back.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient.
Nous revoilà sur les Rockers. On va peut-être faire la réunion pour la centième. Là.
Voilà, on prépare la prochaine émission.
On a des bonnes idées. Hein.
Ouais, ça va être drôle.
C'est à qui là maintenant? C'est à Katia.
Alors, donc on aborde notre dossier présidentiel.
Le spécial présidentiel.
Préparez votre jingle, carte d'électeur.
En douceur. On va y aller en douceur.
D'accord.
D'abord, petite musique.
Ah, quand même. Ah.
Il était une fois un candidat au présidentiel d'un pays qui se définirait comme un grand pays.
Jean Lassalle.
Une grande nation, mais qui en fait bon, est un pays, une nation, comme les autres, avec son histoire, son peuple, ses richesses, ses crispations, un territoire, quoi. Pas la peine de se la péter outre mesure, un pays, c'est tout. Donc ce candidat est un manouche. Attendez que son prénom, ou plutôt son surnom, pour aujourd'hui, ça sera Manouche. Il n'est pas gitan ou digane. Oulala, non, mon Dieu. Non, non, on va l'appeler Manouche. Manouche Tacrom.
Ah oui.
Il est beau. Il a les cheveux laqués. L'arrêt sur le côté. C'est un homme, bien sûr. Blanc, aux yeux bleus, bien habillé. On ne peut pas vous dire s'il sent bon, parce que dans ce pays-là, ces hommes-là, on les voit surtout à la télé. Et la télé, ça ne diffuse pas encore les odeurs. La particularité de Manouche, c'est qu'on pourrait pas trop dire où il se situe dans le paysage politique de ce pays comme les autres, ni où il se situe par rapport à l'histoire de ce pays, par rapport aux différentes valeurs portées par les uns et par les autres. On ne sait pas bien comment il regarde le monde et ses contrastes, ses inégalités, les différents intérêts des uns et des autres. On ne sait pas bien ce qu'il pense juste et injuste, ou du moins, ne nous y trompons pas, Manouche aime à nous faire croire qu'on ne sait pas. Manouche est probablement balance de son signe astrologique. Il en met un peu à droite, un peu à gauche, mais ce n'est surtout ni de droite ni de gauche. Manouche aime les choses salées mais aussi sucrées en même temps. Il n'aime pas le sucre mais pas non plus le sel. Il conduit à gauche ou à droite, il écrit de la main gauche et de la main droite et surtout, surtout, il serre des mains à gauche et à droite, des mains gauches et des mains droites. Il est parfois droit, parfois gauche. C'est un caméléon. Quelqu'un qui ne mourra jamais de faim, capable qu'il est d'aller discrètement se servir dans tous les râteliers du territoire. Manouche a participé à une émission avec des enfants, une émission nommée Au tableau. Comme d'autres candidats à la présidentielle de ce pays comme les autres. Une émission avec des enfants bienveillants, polis, Amanda. Bien peignés, bien éduqués, enthousiastes avec plein de questions. Soit dit en passant, aussi bien éduqué et bien peigné et bienveillant soit-il, Tartine Le Pen, une autre candidate dont il vaut mieux que la télé ne puisse jamais diffuser son odeur, a décliné l'invitation de ses enfants. C'est quand même fou. Il y a des gens dans ce pays comme les autres pourtant, qui vont voter pour une candidate qui a peur des questions des enfants. Ah ben merde,
c'est
alors.
Fou.
Avoir peur des questions de gosses, c'est pas très encourageant quand on veut diriger un pays. Alors, parmi les questions de ses enfants, un garçon demande à Manouche. Dites, Manouche, pourquoi vous voulez, si vous êtes président, baisser beaucoup le nombre d'élèves par classe dans certains endroits et pas dans d'autres? Par exemple, moi, dans ma classe, on est 28 et on restera 28, alors qu'ailleurs, ils seront 12. Et là, Manouche leur a fait une réponse d'anthologie. Une réponse qui montre à quel point il s'essuie le derrière avec l'histoire politique de ce pays comme les autres. Avec l'histoire urbaine, sociale de ce pays, qui montre à quel point il est prêt à utiliser des gosses pour discriminer certaines parties de la population. À quel point il est capable de revisiter l'histoire alors que des enfants en pleine construction ne demandent qu'à comprendre, alors qu'ils sont si bienveillants et qu'ils prennent tout pour argent comptant. Il a montré à quel point il est prêt aussi à diffuser insidieusement, poliment, proprement, des clivages, des dénigrements, des dévalorisations de certaines catégories de la population. Manouche a expliqué gentiment, poliment, calmement, posément, proprement, avec ses cheveux laqués, ses yeux bleus et son ton mielleux, que dans certains territoires, il y a des parents qui aident leurs enfants, qui sont présents à la maison, qui s'intéressent à leurs études, et que les enfants de ces parents-là, enfin il a plutôt dit de ces territoires-là, c'était plus propre, ils n'ont pas vraiment besoin de plus d'aide, puisque leurs parents les aident, ça va pour eux. Mais il y a d'autres endroits où les parents ne s'intéressent pas à l'école de leurs enfants, où les parents ne savent pas lire et écrire, où ils sont absents. Et ces enfants-là, de ces parents-là, oh, de ces territoires-là, il a dit. Eh bien, ils ont besoin que l'État, l'école, les aide, les sauve, alléluia. Comprenez, c'est la faute à tous ces vilains de parents si on est obligé de sauver leurs enfants en mettant plus de moyens à l'école. Parents de toutes les banlieues et zones rurales défavorisées, soulevez-vous, merde. Ce manouche de mec vous prend pour des demeurés, des illettrés, des incapables, il l'explique aux enfants propres sur eux des classes favorisées et diffuse ce message sur les ondes. Alors qu'il ne dit rien, bien sûr, de ce que vous y subissez dans ces territoires, il ne dit rien de votre combat contre le chômage, le milieu de vie dégueulasse et cloisonné dans lequel vous devez pourtant épanouir vos enfants. Il ne dit rien de comment on vous regarde en tant que provenant de ces endroits, de comment on vous a abandonné et de combien vous êtes victime de votre impuissance, de combien l'État est aussi responsable, un peu, à travers les âges de ce triste constat et pas le défaut d'amour ou d'intérêt pour vos enfants. Si c'est pour aller raconter à des enfants des histoires à dormir debout et à vivre dans l'erreur et le mensonge, si c'est pour aller mielleusement commencer à leur insuffler l'idée qu'il y a leurs parents et les autres, que les hommes sont les seuls responsables de leurs difficultés et l'État le seul sauveur de celles-ci, si c'est pour semer chez les culottes courtes les prémices du clivage, de la sectorisation, voire de l'hostilité entre les uns et les autres, même en tant que conteur de fiction, on voudrait pas de toi, Manouche. Même en tant que chanteur de comptines, on te laisserait pas siffloter à l'oreille de nos enfants. Mielleux, laqué, mais à la langue vénéneuse. Voilà ce qu'est Manouche. Et ce qui me rend folle, c'est que tant de petits comme de grands succombent à l'hypnose de ses yeux bleus et de sa raie sur le côté et n'entendent pas les horreurs que diffuse sa salive fétide cachée derrière des tonnes de sang bon. Beurre.
Heureusement, les télés ne diffusent pas encore les odeurs, hein.
Mais pour avoir été près de Macron, il ne sent ni bon ni mauvais.
Ah, bien sûr.
Tu t'es approché de lui ?
Évidemment.
Oh, quelle chance.
Ah oui.
C'était dans une boîte gay, non ?
Non, non, non. Mais il n'était pas encore candidat, enfin pas officiellement en tout cas. Mais oui, il sent moitié de gauche, moitié de droite.
Mmh. Ah bon.
Voilà.
Merci Katia.
Bah, de rien, ça m'a outré. Ce moment pseudo-pédagogique m'a beaucoup énervé.
La question de la taille des classes n'est pas la seule solution, de toute façon, pour aider. Il y a un sujet aussi, il y a un autre élément, un autre facteur, c'est la mixité des classes aussi qui aide beaucoup. Et ça, comme position politique, c'est un peu plus compliqué à défendre, surtout quand on est Macron ou quand on est plus de droite. Mais toutes les études pédagogiques le disent, des écoles mixtes, c'est-à-dire avec des élèves qui ont des facilités scolaires mélangées à des élèves qui ont plus de difficultés, ça aide tout le monde, à la fois les élèves faibles et les élèves forts, parce que ils s'entraînent les uns les autres et on peut apprendre entre pairs, PIR, voilà. Et les élèves forts réexpliquent avec leurs mots aux élèves faibles. Et souvent, c'est par exemple dans les classes mixtes, les élèves forts gagnent un point de moyenne, alors que les élèves faibles peuvent gagner jusqu'à 7 points de moyenne. Voilà. Mais c'est une position politique à défendre, ça aussi.
Mais après, pose une autre question.
La carte scolaire.
Et la carte scolaire, et même au-delà, la question de la mixité urbaine, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de mixité scolaire ou de carte scolaire si on n'attaque pas la question de la mixité urbaine. Et ça, évidemment, personne ne s'y attaque.
Eh oui.
Pardon, excuse-moi, je te prie de m'excuser.
Moi, bon, je suis assez vieille, mais quand j'étais à l'école primaire, donc aux États-Unis, j'ai participé pendant 2 ans à une classe mixte. Et en fait, on avait les enfants avancés un peu, et les selon leur échelle, hein, les enfants avec les difficultés et les entre-deux. Et justement, pendant 2 ans, j'ai participé à ça. Bon, il y avait des moments un peu difficiles parce que parfois vraiment, à 9 ans, j'avais du mal à comprendre pourquoi la fille à côté de moi, dans son fauteuil roulant, sortait tous les trucs de mon sac et se permettait de déranger toutes mes affaires et tout.
Ah, ça, c'est
mais
chose,
c'est vrai
ça,
que c'est j'ai appris plein de choses, surtout par rapport à la patience. Dès un très jeune âge, parce que j'étais confrontée par les gens que je voyais que mes collègues que j'aimais bien étaient en difficulté, et je me suis dit comment je pourrais les aider ou pas. J'avais 9 ans, hein, il y avait des moments où je n'avais pas envie.
Mais après, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle les élèves à besoins pédagogiques particuliers, je crois. Enfin, ça, c'est encore autre chose, quoi. C'est t'as des enfants qui ont du retard aussi.
Oui,
mental,
mais c'est juste pour dire que la mixité, franchement,
c'est encore autre chose, ça.
Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme une démarche qui avait
sûr.
Mis en place.
C'est ça la République, bordel, aussi.
Voilà.
Pardon. Oui. Ouais.
Et moi, regardez-moi, je suis parfaite, donc ça a
c'est
bien marché,
mal,
quoi.
Mais toi, du coup, t'étais dans les élèves en difficulté ou les moyens?
C'est exactement ça. Non, j'étais parmi les plus forts. Wow. C'était l'école publique. Ah, oui,
parce que si au hockey, vous avez la crème de la crème.
Ouais, c'est vrai. Ok.
Un peu de musique, ouais, c'est Guillaume.
C'est moi qui l'ai choisi. Alors figurez-vous que moi, depuis un an, j'ai une espèce de tornade chez moi qui rafle tout ce qui est à moins d'un mètre de hauteur.
C'est une roquette là.
Non. Et ben du coup, je sais pas pourquoi, je me suis mis à sauvegarder tous mes CD. Hein. Et donc je retrouve des vieux CD sous lesquels j'enlève la poussière. Et là, par exemple, j'ai trouvé une compile de reprises de chansons de la Mano Negra. Et là, c'est une reprise de Out of Time par le Maximum Quet. Et c'est sympa. Je vous laisse écouter.
Thank you.
On est de retour, donc.
Et on avait des conversations.
Ah, oui.
Eh oui, elles
sont frustrées. On prépare la spéciale beat.
Oui. Eh oui, ça viendra. Je les sens bien qu'ils sont déçus qu'il n'y ait pas eu cette émission. Mais tant pis pour vous. Voilà, fallait assumer. Eh ben, on reste, ben, à défaut de parler de beat, nous parlons de gland, toujours. Et c'est Benjamin qui continue dans notre dossier présidentiel.
Oui, avec une spéciale sur le grand débat que vous avez peut-être regardé. Sur les chaînes d'information en continu. Alors, je précise d'abord aux nombreux lecteurs du journal Véronée, l'Hebdo, je les prie de m'excuser parce qu'ils vont reconnaître dans la chronique qui va suivre quelques éléments qu'ils ont sans doute déjà lus.
Ah, j'ai lu un extrait, ouais.
Dans leur feuille de chou favorite. Mais qu'ils se rassurent, la dite chronique a été grassement amendée depuis. Et voici donc sa version étendue. Donc 11 candidats, 4 heures d'émission, 3 grandes thématiques. Le grand débat proposé le 4 avril par BFM et CNews était unique, il était riche. Oui, oui. Et donc, pour faire le tri, j'ai choisi de noter les prestations des candidats. Alors, j'ai classé, comme font les enseignants un peu sadiques, du meilleur élève au pire. Comme
oh,
ça,
c'est dégueulasse.
Tu attends la note jusqu'à la fin, tu sais.
C'est alors, un bon concours de grosses cliquettes.
Voilà, je dis déjà, je préviens Benoît Hamon et Jacques Cheminade qui vont devoir attendre longtemps avant d'avoir leur note. Je commence donc par le meilleur élève de la classe, Philippe Poutou.
Ouais,
un beau 10 sur 10, je pense qu'on est tous d'accord,
ah,
acceptable. Alors, bon. Philippe Poutou ne gagnera pas l'élection présidentielle. Ses idées ne sont pas majoritaires, elles sont même marginales. Son style je m'en foutiste a choqué le bourgeois et la bigote, fan de François Fillon. Parfois au bord de la diffamation, il a quand même eu, Philippe Poutou, le mérite de remettre sur la table les affaires du candidat de la droite et de Marine Le Pen. Avec sa réplique à Le Pen, il n'y a pas d'immunité ouvrière, il a marqué les esprits. Le 4 avril, Philippe Poutou n'a sans doute pas gagné de points dans les sondages, mais il en a peut-être fait perdre quelques-uns à d'autres, peut-être à Le Pen et à François Fillon.
Oh, on a peut-être gagné, là.
Peut-être, on verra.
Enfin, dans sa catégorie, tu vois, les insiders, quoi.
On parle pas de points, là, on parle de dixièmes dans ces cas-là, mais c'est bien, déjà. Alors, deuxième élève de la classe, François Asselineau, à qui j'ai attribué un joli 7 sur 10. Le président de l'UPR, alors je sais plus ce que veut dire UPR, je vous en redirai pas là.
Union populaire et républicaine.
Voilà, merci. Et donc, le président de l'UPR est clair, il est précis, il connaît les textes, il les cite souvent trop souvent. Il a deux tubes favoris qui sont « C'est la faute à l'Europe » et « Selon l'article X ». De quoi s'assurer une fanbase très active. J'en ai fait les frais matin sur les réseaux sociaux. Je vous raconterai ça plus tard si on a un peu de temps. On retiendra aussi de la performance d'Asselineau lors de ce débat. Ça pique à Macron. Vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. C'est quand même bien envoyé. C'était bien envoyé. Numéro 3 du classement, Jean-Luc Mélenchon. 6 sur 10. Il est facile, Mélenchon, en ce moment. Il marche sur l'eau. Tout paraît pour lui simple formalité.
Mais il l'a déjà fait plusieurs fois.
Oui, c'est vrai. Et au milieu des excentriques qu'il y avait ce jour-là, il passait presque pour un centriste.
Ah,
mais à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, donc seulement 6 sur 10, parce que pour lui c'était trop facile. François Fillon vient ensuite avec un 5 sur 10. Ah, le maudit Poutou, s'il avait pas été là, François Fillon, il aurait vécu une soirée parfaite. Il avait de la hauteur, une stature d'homme d'état, de l'expérience.
Un beau
il
costume.
Ne manquait pas d'atout, un beau costume. Mais voilà, Poutou était là, donc 5 sur 10. Nicolas Dupont-Aignan obtient la même note que François Fillon. Il était à l'aise, il était offensif, il était courageux face aux gros, loyal face aux petits. Dans une autre formation politique, il aurait sans doute fait une belle carrière, mais là non. Nathalie Arthaud, même note que les deux autres, 5 sur 10. Sur le même chrono que Philippe Poutou, elle a eu du mal à tenir la comparaison. Elle n'a pas le panache de son homologue du NPA. Elle a en revanche un discours plus construit qui devrait rassurer les militants historiques de lutte ouvrière. Ceux qui ont voté pour elle la dernière fois devraient recommencer, en tout cas ceux qui sont toujours vivants. Jean Lassalle, 3 sur 10, là on commence à atteindre le.
Et puis.
Atteindre le bas du panier.
Il va falloir faire un débat
sympa,
sur Jean Lassalle.
Ouais. Ah, mais.
Je trouve un 3 sur 10.
3 sur 10. Il est sympa, hein, quand même.
Ah,
il
ouais
a un accent chantant. Je le fais mal, mais il a un accent chantant.
Non, c'est.
Il a, et c'est vrai, un côté un peu fou, faut bien le dire. On a du mal à le suivre. Il semble lui-même avoir parfois du mal à comprendre ses propres raisonnements. On se demande comment et surtout pourquoi 33 maires avéronais lui ont accordé leur parrainage. Voilà, record de l'Aveyron, hein, 33 parrainages.
Mais quelle image.
Son côté berger des Pyrénées a dû trouver de l'écho dans la campagne Rouergat. Les maires des petits bleds du coin se reconnaissent sans doute en lui. Lui qui, comme eux, arpente quotidiennement vallons et pâtures. Bon, si on suit leur raisonnement, en tant que Vendéen, je devrais soutenir De Villiers ou son ancien fils spirituel, son Brutus, passé chez Fillon, Bruno Retailleau. Ce n'est pas le cas. Jean Lassalle, on en reparlera vivement à l'issue de cette note. Vous trouvez que je suis trop gentil. Bon, je réviserai peut-être ma note. Viennent ensuite ex aequo Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors, les deux favoris l'ont joué petit bras, j'ai trouvé. Hein. Ils ont cherché à éviter les coups plus qu'autre chose. Ils en ont pris des coups quand même. Ils en ont rendu, mais sans panache. Ils avaient beaucoup à perdre dans ce débat et pas grand-chose à gagner. Ils n'y ont rien gagné et ils n'y ont pas perdu grand-chose. Heureusement, Poutou et Asselineau étaient là pour les mettre en valeur. Benoît Hamon, il obtient la note de 1 sur 10. Il doit avoir hâte que cette campagne se termine parce que j'ai l'impression que plus elle avance, moins il est bon. Sa récitation en fin d'émission, je ne sais pas si vous avez regardé, mais à la fin, il devait en quelques mots expliquer pourquoi il fallait voter pour eux, en gros. Et lui, il avait préparé une poésie presque.
Ah ouais.
Sauf que, je pense que cette récitation en fin d'émission aurait gêné le cancre d'une classe de 6e, même les classes à 12 élèves d'Emmanuel Macron. Enfin, dernier élève, Jacques Cheminade. Bon, il a l'air sympa, lui aussi, mais franchement, bon, moi, je me suis demandé ce qu'il faisait là, ce qu'il apportait. J'en ai conclu que, en fait, rien. Et j'ai quand même attribué aussi un 5 sur 10 à Ruth et Laurence. Oui, je n'allais pas oublier mes deux consoeurs, Ruth Elkrief et Laurence Ferrari. Chargés d'animer ce débat, je leur ai mis la moyenne. Pour la simple et bonne raison qu'elles ont essuyé les plâtres d'un débat jamais organisé par le passé. Elles avaient, il faut bien le dire, un rôle à la con, ni journaliste, ni animatrice, ni médiatrice. Elles avaient aussi à gérer de sacrés clients, comme Jean Lassalle. Voilà. Le Pen leur a aussi balancé une petite pique façon Quenelle, jugeant que les deux journalistes défendaient un peu trop Emmanuel Macron. À part ça, elles n'ont pas été la cible de candidats, donc on passait une soirée plutôt tranquille. Donc voilà, 5 sur 10.
Merci, monsieur le professeur.
Alors donc, Lassalle, 3 sur 10, non? Vous êtes...
Je sais pas, Jean Lassalle, ouais, c'est vrai, Jean Lassalle. Je vous conseille de garder le bulletin de vote de Jean Lassalle, parce que dans quelques années, je pense qu'on ne croira pas qu'il était candidat, celui-là. Il faut le garder, celui-là. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu comme le dîner de con. Lui, on l'a invité, tu vois, de sa gueule. Les gens ont signé. Peut-être que les Avéronais sont très déconneurs. Vas-y, signe ça. Alors, ouais, non, pas cap. Vas-y.
Non, après, enfin, les 33 qui lui ont accordé leur signature, c'est des maires de communes de 300 habitants. Enfin, c'est vraiment, je pense
c'est intéressant. C'est lui qui demandait la signature, en fait. Donc, il était trop fier de après, signer un truc.
Enfin, lui, au moins, il a ce côté. C'est un élu local. On peut comprendre que ses pairs lui trouvent des qualité. Quand tu vois qu'un Jacques Cheminade, par exemple, trouve 500 signatures, là, j'ai
mais
plus
de
mal à comprendre.
Mais c'est le gamin, Cheminade, c'est le roublard, quoi, tu le sens, quoi, c'est le mec qui va t'embobiner, mais Lassalle, quoi. Alors Lassalle, il avait fait un tour de France à pied, peut-être que c'était ça, l'objectif de rencontrer les maires, et il s'est fait des contacts comme ça.
Il a eu aussi des coups d'éclat dans sa carrière politique, peut-être, surtout qu'il est pas loin de sa grève de la faim.
Bah oui, moi, je suis là-bas, ouais.
Mais il le fait réellement à pied? Non.
Bah oui.
En tout cas, il y a des photos. Non, mais c'est assez fou pour.
Oui, je pense que oui.
Nous, on l'avait.
Il a fait une grève de la faim pour sauver une entreprise qui allait délocaliser à 30 km. Attention, il partait pas en Chine à l'entreprise. Mais bon, il a gagné quand même. Hein. Et il s'est mis à chanter aussi au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est un très jeune élu. Hein. Il a été élu maire de son village. Il avait 20 ans et quelques. C'est le dîner de con, quoi. Vas-y, mets-le là, on va voir.
C'est
rigolo,
ça qui plaît, quoi. C'est peut-être son côté excentrique.
C'est vraiment le mec improbable. Je l'entends dans les interviews, mais les journalistes sont perdus. Ils savent pas quoi lui poser comme question.
Bon, Macron, il est venu en Aveyron il y a quelques temps, là.
Mais non, il est là ce soir. Il est assez Bazac ce soir. On est le 6 avril.
Ah oui, aussi?
Oui, c'est vrai. Oui.
Bon, mais il revient.
Je
pense. Il a presque fait 10% de ses signatures sur le département, donc je pense qu'il va nous choyer. Mais effectivement, quand il est en conférence de presse, tu le laisses parler parce que déjà tu sais pas trop comment l'interrompre effectivement c'est lunaire, tu comprends pas tout, t'as l'impression que lui-même comprend pas forcément ce qu'il est en train de te raconter, il t'explique sans sourciller que son programme il est pas prêt,
mais ça fait plaisir aux gens
plus tard. Et que parce que c'est prêt ils ne s'en souviennent pas
oui.
Quand même
parce que ça leur rassure que c'est quelqu'un qui vient de leur milieu, quoi, ce qu'on a le bol, je pense.
Non, mais pour les élus, je veux dire, quoi, Véronée, c'est ça, je pense,
honnêtement, j'ai le bol pour les candidats qu'ils ont fait Sciences Po, quoi, fin que c'est bon, on a tous compris qu'est-ce qu'il faut pour monter en grade, un niveau politique, et chez moi, et chez moi ici. C'est du fric, en fait. Je pense que les gens, ils ont ras le bol. Voilà.
Tous les candidats sont, c'est une technique de campagne, ça, moi aussi, je la faisais quand j'étais candidat, c'est ne jamais dire qu'on va perdre ou qu'on est là pour la posture. On dit toujours, on va gagner, bien sûr, je vais gagner, oui, je suis là pour être au deuxième tour. Mais à un moment donné, il faut changer de registre, là, quand on est Jean Lassalle ou Cheminade, on peut pas expliquer qu'on va être au deuxième tour. Et eux disent, Lassalle, et on a l'impression qu'ils y croient aussi, mais là, je serai au deuxième tour, c'est moi qui vais gagner, là, tout ça. Non, faut trouver autre chose, faut trouver une autre combine.
Tout est bon aussi, c'est parce que lui, cette carte-là de je gagne, je vais je suis là pour gagner, il la joue pas. Non. Il est conscient de ce qui, de
et
ce
c'est vrai
qu'il
que lui,
est, de
ouais,
pourquoi
c'est
il
vrai.
Est là.
Lui, alors lui, par contre, c'est vrai que sa phrase est géniale, quoi. C'est un ouvrier, il y a pas d'immunité ouvrière, parce que ça, même l'ouvrier du Front National, il est obligé de reconnaître ça.
Ouais, c'est vrai que si moi j'étais emmerdé par les flics.
Et oui, ça c'est très bon. Et je pense ça va faire du bien aussi à nos camarades du NPA, parce qu'on a besoin d'incarnation aussi. Ça fait du bien d'avoir des candidats punchers comme ça, sur lesquels on peut se reconnaître. Voilà.
Alors en plus, il est puncher, presque maladroit. Ça semble, je sais pas si ça l'est, mais ça semble spontané. Ça a l'air de venir des tripes, du cœur, je sais pas. Il le fait vachement bien parce que justement il le fait pas très bien.
Dans les films ce serait le sidekick rigolo, vous savez, c'est pas le héros, mais c'est le copain du héros, c'est qui fait les petites blagues, tout ça, qui est à côté. Alors c'est dommage qu'il soit en première tête, parce que dans un film de baston, c'est pas le sidekick rigolo qui est le héros, là ils font un badass plutôt, quoi.
Mélenchon,
et lui c'est ça, le sidekick rigolo qui fait les petites blagues, qui est toujours là, on peut compter sur lui, mais voilà, il est sympa, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'il a trouvé son créneau plutôt de personnage politique, je veux
dire. Et puis ce qui est bon, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire que des grosses tête comme Marine Le Pen ou François Fillon répondent pas et n'ont pas de quoi lui opposer.
À part le menacé de procès que ça fait Fillon pendant le débat.
Dans sa barbe, mode je suis vexé, je suis pas content. Mais ça marche en fait.
Il avait raison, c'est sans doute condamnable.
Mais il l'a assumé en suivant en disant j'ai dit ce que j'ai dit, voilà, c'était trop bon. Bah ouais, je l'ai dit, ok, c'est bon, allons-y.
Voilà.
J'aurais aussi un. Alors Fillon, il est en face de moi. Ah oui, c'est vrai, merde, il est en face.
Et allez voir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout un jeu sur Twitter, parce que Poutou se retournait derrière ses copains, on reconnaissait Julien Salling derrière lui pour avoir des conseils, et donc les tweeters se sont demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien dire. Donc il y a plein de phrases ultra marrantes. Macangou est garé sur livraison, vous pouvez les fâcher, ou c'est à quelle heure le dernier métro, faut que je rentre.
Tu prends ma place, je travaille demain à 4h30.
C'est le truc que t'as mis sur ton Facebook.
Oui, voilà, c'est ça, j'ai partagé sur mon Facebook. On partagera sur le Facebook des Roquets, vous rigolerez aussi. On écoute un peu de musique.
Oui, un peu de musique, un peu de DJ Shadow. C'est un album déjà très vieux qui a presque 11 ans.
Toi aussi, tu sauvegardes tes disques?
Non, mais moi aussi j'ai des CD.
C'est vrai. C'est une génération, ça.
C'est le morceau qui s'appelle Keep 'Em Close, featuring Nemp.
Pillow talk, man. Man, Shadow, you was there. Remember how it went down, bro? Yo. Shadow dropped me off at Bart at the Fruitvale station. Grapes, that's always spark. You might have heard that on your radio station. Pay a wave to my friend, looked at him, and he grinned and said, keep your friends close, but those that you want to rob, keep them closer. Why stops my fortune cookie of the day? So I walked on my merry way and scrapity scrape to San Jose. Stutters half off because the lick don't went bad. My Vietnamese partners told me that they hauled Tai Chan. Chan is the boss that throws pizzas a white chick off.
Cocaine.
It might be pillow talk that got my city side chop. The whole hood in lost because we don't know who to watch now. Keep your friends close, but those that you want to rob, keep them closer. Now my best friend, now my best friend, and my enemy, now my best friend. I'm not worried about that Hennessy, I need rounds for my weapon. Stress is worse than a stockbroker going broken out of Folgers. Y'all don't know, it feel like the galaxy on my shoulder. Who to trust or disgust? My life, my luck. My wife, my lust. You might be biting the dust. Cause you know lately she been off that stuff. Hate me and I'm like, keep your friends close. But those that you wanna rob, keep them closer. I'm annoyed, exploited. Don't know who to talk to. Those that said they love you, now they wanna pop, 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 pop. Watch you drown and fumble. Fuck that shit, I ain't humble. I see my brother and he try to pinch me with a big ass bundle. My uncle's daughter, my niece says she want me to see. She learned that from her mama. I ain't talked to her for about 3 weeks. But I'm sneaky. Is that my enemies trying to get me? Keep your friends close, but those that you wanna rob, keep them closer. Ah,
I see you, nigga.
Man, fuck y'all niggas. You ain't got me. I'ma fuck you up.
I
breath like a fish out of water. Leaking out my cheese like a jalapeno popper. I'm thinking about my life mode and I'm thinking about my daughter. I need to get back to the house to see who really on my roster. I walked in, something feel wrong. Flicked on the lights and all my shit was gone. Only thing left was a letter under a coaster that said, keep your friends close. But those that you want to rob, keep them closer.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je connais les bolcheviks.
Les cons, ça ose tout.
Nous, on est heureux là.
On est reparti. Je me lance tout seul parce que voilà, c'est oui, compliqué. C'est... Oui. Enfin, on pense jamais à moi. Dernière. Et donc,
maintenant,
moi-même, Guillaume.
Fais des débuts de lancement. Et Matt,
on continue. Non, c'est pas votre radio qui marche mal. Ne tapez pas dessus. Hein, c'est nous. Ça...
On enchaîne, donc on continue notre dossier présidentiel, voilà. Nos consignes de vote presque.
Ah non, c'est une consigne de vote, mais moi
nos
je.
Pronostics.
Alors je vais pas vous faire un pronostic, ça c'est il y a Romain qui.
Voilà,
qu'on
essaye de joindre.
Pour on a essayé de
vous le livre,
mais on s'y est pris trop tard, bien sûr. Moi c'est pas des pronostics que je voudrais faire, c'est un rêve. Voilà, je vais vous donner le résultat du premier tour que je rêverais de voir. Quoi, je suis prêt, je sais pas, à faire des sacrifices à Odin pour ça. Je voudrais voir ça. Alors je vous dis, j'aimerais voir par exemple Macron à 4,9%. Quoi, juste là-bas. Avant d'être remboursé, quoi, et voir sa tronche de premier de la classe complètement décomposée, et surtout tous les crevards qui l'ont soutenu, quoi, ne pas trouver d'explication à ça, quoi, mais c'est la faute au système, au sondage, je sais pas pourquoi, je comprends pas. On a tous eu dans nos classes le premier de la classe, vous savez, qui cartonnait à 16 de moyenne en maths, et puis un jour il se prend 12 de moyenne et il chiale, alors que toi t'as 10 et t'es super content, et l'autre il a non, je pourrais pas faire classe prépa, tout ça. Et je voudrais voir sa gueule à Macron comme ça, là. Ah oui, mais là je serais prêt à tuer pour ça, je pense. Si, bon, pas quelqu'un que j'aime, bien sûr. Non, bon, on va trouver, mais un animal, je sais pas.
Mais pour tuer quelqu'un que tu aimes, il faut quoi, en fait?
Parce que c'est une autre chronique.
Et bah, peut-être la suite. Alors, si Macron à 4,9, donc après, j'aimerais bien voir Poutou à 5%, justement, qui bat Macron. Juste, voilà.
Devant Macron, il est remboursé.
Remboursé. Et là, je pense qu'on
va s'acheter un nouveau t-shirt à col tunisien.
Exactement. Et là, je pense qu'on a des chances sur les réseaux sociaux de le voir ivre mort avec plein de piercings sur la gueule en train de chanter la cucaracha. Chant révolutionnaire, je vous le rappelle, à la base, voilà. Et puis, ce serait mérité. Voilà. Ensuite, j'aimerais voir Hamon à 10% pour avoir le plaisir de rencontrer les militants socialistes et d'être un peu paternaliste comme eux le sont. Oui, non, c'était une bonne campagne que vous avez fait. Non, c'était bien, c'était courageux. C'est pas mal, 10%. Hein. Alors, tapons sur l'épaule, vous savez, là. Voilà. Ensuite, j'aimerais voir Marine Le Pen aussi éliminée au premier tour. Aussi, non, ouais, c'est, c'est la faute au système, hein, les médias, voilà, ce serait plaisant aussi de voir sa gueule. J'aimerais voir Asselineau avec moins de 20 000 voix. Parce que sur son site, il revendique 22 800 adhérents. Voilà. Donc, j'aimerais qu'il y ait moins d'électeurs que d'adhérents pour qu'il puisse être
envisageable.
Mais il était parti en week-end.
C'est ça, ouais.
C'est possible, il a peut-être des
c'est
adhérents
la faute
mineurs.
De
ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, mais revendique. L'autre fois, il y avait un troll, parce que alors là, tu me parlais des trolls sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des trolls à la radio qui appellent, notamment sur France Inter. Et un jour, il y avait un troll qui appelait. Alors oui, moi, je suis de l'UPR, sur l'île de la Réunion, et je vois rien qu'à l'île de la Réunion, on est 11 000 adhérents. sur une population de 800 000 personnes. Bien sûr. Quoi, voilà. Donc là, voilà. Donc je rêve souvent de voir les gens perdre, hein, bien sûr. Ce qui nous ferait un deuxième tour Mélenchon-Fillon, donc une gauche très à gauche, une droite très à droite, et ce serait très intéressant de voir où les gens se positionneraient, où se positionnerait Manuel Valls, par exemple. Mmh. Bon, on verrait plein mal de crevards, bien sûr, des gens enfin sont placés être tout d'un coup révolutionnaires, plus mélenchoniste que Mélenchon, bien sûr, ça serait plaisant à voir aussi, voilà. Ouais, donc,
comment se comporterait l'abstentionnisme face à ce...
Ah, curieux, oui. Ouais. Mmh. Voilà, c'est pas des pronostics, hein, mais voilà, ce serait mon résultat rêvé, là. Ouais. Là, je serais hyper content au premier tour, quoi.
Ouais, peut-être, c'est peut-être moins ambitieux, mais, c'est toujours sur le grand débat, là, à l'issue du grand débat, ils ont fait un petit sondage auprès des gens qui avaient regardé pour savoir qui était le plus convaincant. Et donc Mélenchon arrivait premier avec 26 et Macron deuxième avec 21. Donc si le résultat du deuxième tour c'est Macron-Mélenchon, j'en serais content quand même.
Mais je pense que je suis un peu pessimiste parce que moi, c'est un deuxième tour noir, moi, c'est... noir et noir.
Ouais, ouais, c'est pas un pronostic hein, non plus. Hein, c'est un souhait aussi.
Je vois Marine Le Pen, Macron. Hein.
Mais c'est très ouvert. C'est vrai que c'est très ouvert. Il y a une variable d'erreur quand même assez importante. Et c'est vrai qu'on a une campagne très ouverte avec potentiellement beaucoup de surprises. C'est ça qui est intéressant justement.
Et un ralliement surprise dans une semaine entre Mélenchon et Hamon.
Non,
c'était un poisson d'avril, moi j'ai trop marché. J'ai reçu un texto, tu sais pas quoi, scoop de la soirée, Mélenchon vient de se rallier à Hamon. On a passé 10 minutes sur internet à chercher partout où elle était, où cette putain d'info, avant de se rendre compte que c'était le 1er avril.
Oui.
Voilà. Mais après, l'élection, ça sera décidé par ceux qui votent. Va voter quoi. Vous êtes en suffrage direct. Je ne vois pas le problème, quoi. Ceux qui s'ennuient, j'ai pas eu le temps, ça me saoule et tout ça.
Il y a ça, mais il y a aussi...
Ça ne sert à rien.
Ouais.
Ça sert à quelque chose, en fait.
Bah, ça dépend, parce que aussi, alors moi, j'irai voter. Et même, on en a déjà parlé ici, au second tour, j'irai voter contre le candidat qui s'opposera à Marine Le Pen, ça, on en a déjà parlé. Mais une forte abstention, effectivement, ça peut aussi avoir un message politique de dire, on n'en peut plus, même votre vote utile, on n'en peut plus.
Bah après, l'abstention forte, tu l'as depuis des années, ça ne change rien, quoi.
Ça ne changera rien, donc ça n'aura aucune voix. Enfin, pour moi, en fait, il faut voter une loi par rapport à l'abstention avant de.
Ça dépend
de
ce qu'il y a derrière.
Il y a
une abstention politique justifiée que je respecte aussi.
Moi, j'ai aucun respect pour les gens
qui nous écoutent.
Sauf que tu dis qu'il faut faire une loi avant de pratiquer, mais en fait, il n'y aura pas de loi s'il n'y a pas de pratique. Après, moi aussi, j'irai voter pour plein de raisons, mais de plus en plus, je peux entendre les arguments qui ne sont pas des arguments de j'ai autre chose à faire, de plein de gens qui ne vont pas voter. Et si peut-être certains candidats aujourd'hui se posent la question de prendre en compte le vote blanc ou l'abstention, c'est parce qu'il y a aussi cette.
Donc
cette forme de contestation
qui se sont votés les salaires à vie, qui viennent me renvoyer, comme beaucoup des auditeurs, une correction de facture de EDF, je pense que tout le monde l'a reçu là, pour les années 2014-2015, parce que les ministères ont voté qu'on n'avait pas assez payé. Donc on est en train de payer pour il y a deux ans, même pourtant que les ministères, ils sont payés à vie, et même eux, ils se permettent tout. Vous pensez réellement qu'ils vont écouter si vous votez pas? Non. Ils vont en profiter. Enfin, il faudrait se réveiller un peu quand même. Il faut mettre les gens comme nous, les gens normaux. Dans les il faut les élire.
Jean Lassalle,
Jean Lassalle. Moi, je préférerais Jean Lassalle que Marine Le Pen. Hein.
Avec toute l'offre politique.
Honnêtement.
Aussi variée, tu vois.
On va rigoler.
Si tu t'y intéresses, que tu te renseignes, tu dois quand même. Réussir à trouver un candidat qui te ressemble un peu.
Tu peux être cohérent. Si tu veux, si t'en as marre de tous les pourris, tu votes pour des candidats qui ont pas de casserole au cul. Et il y en a, quoi. Voilà. Ouais. Surtout à gauche, quoi. T'as Méluche, il a pas de casserole au cul. Voilà. Si tu veux quelqu'un qui soit pas un énarque ou un notable, t'as Poutou, et Artaud, voilà. Si tu veux un système, t'as des vrais anti-systèmes aussi.
Si tu veux sortir de l'Europe, t'as des solutions. Si tu veux, défendre les élus locaux, t'as des solutions.
Les abstentionnistes pas crédibles, c'est ceux qui ne votent pas et puis après qui vont se plaindre. J'en ai connu aux européennes qui chialaient le soir parce que le Front National était arrivé en tête mais qui était allé à la mer parce qu'il faisait beau. Elle dit ouais, je sais, je dois pas me plaindre mais je me plains quand même, j'ai pleuré devant ma télé parce que le Front National, bon c'est sûr j'étais à la mer. Elle va se faire enculer mais bon voilà.
Moi j'ai aucune je sais pas. Bon, moi, les gens
message,
qui votent
quoi,
pas, franchement,
bon,
je les pardonne
voulez,
pas. Je ne vous pardonne pas.
Vous êtes grand, voilà. Et toi, Amanda, tu votes?
Évidemment que je vote. Aux États-Unis. Je n'ai pas le droit de voter ici. Je vous rappelle que, il y a quelques années, quand ils ont proposé le droit à vote aux étrangers, ils ont présenté ça comme les étrangers, comme ma mamie, qui parle même pas le français, qui habite loin. Pas les résidents qui paient des impôts, qui sont impliqués dans la vie là et qui vivent la vie comme vous, comme tout le monde.
C'était une promesse de campagne de François Hollande.
Exactement.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas de vote pour des gens comme moi. Je paie les impôts, même probablement plus que certains de nos auditeurs.
Que certains
des
chroniqueurs.
Oui,
mais
alors si,
c'est parce que
tu gagnes plus.
Parce que je déclare dans deux pays.
Elle est bien intégrée. Hein,
c'est
vrai qu'elle pourrait voter. Ouais.
Je suis doublement à peine, moi. Donc moi j'ai fait le choix de vivre ici même si j'ai pas le vote. Donc je ne vais pas vous reprocher pour vos votes individuels, mais le fait de ne pas voter, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça vraiment.
Et si tu devais voter, tu voterais pour qui?
Tiens, t'as le droit de le dire toi.
Ouh,
ah.
Ça dépend.
Dans la rédaction de...
En fait, elle voterait pas.
Du coup, ouais, non,
depuis que
Donald
Trump est
nuls.
Élu, je n'ai aucune foi dans le système politique, en fait.
Comme les gens qui votent pas.
Oui, mais la différence, c'est que votre suffrage est direct et le nôtre est indirect.
C'est vrai.
On dit que... moi, je voterai Mélenchon, premier tour, ça c'est évident. On l'a rencontré à la fête de l'humanité il y a 5 ans. Il était super gentil et tout. Et ensuite, en fonction de ce qui se passerait, pour moi, c'est le plus à gauche possible.
C'est vrai qu'il y a des médias comme, par exemple, Charlie Hebdo, en 2012, tous les membres de la rédaction avaient dit pour qui ils avaient voté. Alors, peut-être qu'on pourrait faire la même chose.
Ah, oui, si vous voulez, ouais. Si je vais voter, a priori, à 99% de chance sur Mélenchon.
Ouais, et s'il est le 1%, c'est cool.
Ce serait Boutou, mais bon, je pense que ce sera Mélenchon, parce que voilà, par logique, moi, je suis militant politique et mon parti politique appelle à voter Mélenchon, voilà. Et je suis d'accord avec les grandes lignes de Mélenchon. Même c'est pas Mélenchon qui m'énerve le plus, c'est les militants de la France Insoumise, que je trouve qu'il y a une baisse de qualité politique là dans le militantisme mélenchonien. Mais bon, c'est pas eux qui se présentent, c'est Mélenchon, donc voilà, je vais voter pour lui. Et toi?
Moi aussi. À 99,9% et le 0,1%, c'est si je suis malade ou blessé que je peux pas y aller.
Bah, il y a les proncus.
Ouais, mais je l'aurais pas anticipé parce que je me serais cassé la jambe en allant voter, par exemple.
Ah, d'accord, je t'amènerai. Amanda t'amènera.
Tu me traîneras.
Ouais. Je suis là.
Et quand je tombe,
j'ai mon
relève.
Petit vélo.
Et toi, Katia?
Eh ben, tout pareil, hein. 99% Mélenchon, 1% Poutou.
Quelle équipe?
C'est fou, hein.
Bah, donc Mélenchon élu à l'unanimité.
Ouais, chez les Roquets, parce que Romain, on peut sans...
Voilà, il aurait voté Hollande sinon, mais il se présente pas. Donc...
Romain, je pense que c'est 99% Mélenchon, 1% Asselineau.
Voilà. Ouais, voilà.
Il gère ses contradictions.
Ça, ou peut-être Dupont-Aignan qui
voilà. Et toi, Tristan, t'as une idée? On a regardé, il se cache derrière sa console, quoi. On en avait parlé.
On en avait parlé, mais je pense Mélenchon, si j'ai cru.
Jean-Luc,
c'est bon,
tu as gagné. Non, c'est quoi?
C'était une pique.
Ou pas?
Si j'ai le temps, je sais.
Si j'ai le temps, il a dit. C'est vrai que les dimanches, c'est occupé, tout ce qui est ouvert, on a
pas. C'est pas ça, c'est la procuration qui m'embête, tu vois. C'est
compliqué.
C'est chiant, tu vois, voilà. C'est chiant. Et j'ai des amis qui ne votent pas et ils ont leurs arguments et je suis d'accord avec eux.
Oui.
Je trouve ça normal.
On invitera un abstentionniste.
Ouais, voilà. Oui, bien sûr.
Pour la centième.
Il y a des gens qui sont dégoûtés, quoi. C'est tout. Ils sont juste dégoûtés. Ils ont voté plusieurs fois, plein de fois. Et ça change rien, donc.
Ouais, en même temps, moi je dis que le vote, c'est une action politique parmi d'autres, quoi. Tu peux pas te contenter du vote, quoi. Si tu fais rien dans le reste de l'année, non, ça suffit pas. Et moi, je peux très bien voter pour quelqu'un et le contester le lendemain, quoi, bien sûr.
Après, je suis d'accord avec Benjamin. Non, mais enfin, je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu disais. Ouais, non.
Attends, faut
essayer de
parler
d'un truc gentil.
Laissez-le parler.
Il faut s'intéresser. Ouais, c'est juste ça en fait. Le déclic.
Mais c'est vrai que c'est
il y a 6 mois, j'étais comme tous mes amis en fait. Je m'en fous, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est pas l'important. Puis j'ai commencé à m'intéresser. En fait, plus je regardais, plus ça m'a intéressé. Bon, voilà. Mélenchon, mais même Mélenchon, j'ai des doutes en fait. J'arrive à avoir des doutes, quoi.
Eh oui, mais c'est ce que c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce que tu votes pour un candidat que t'es obligé de le défendre, quoi.
Moi aussi, j'adhère pas à tout, bien sûr.
Voilà. Donc ça reste.
Moi, je me rappelle en 2012, au deuxième tour, un ami vendéen, mélenchoniste, qui lui croyait vraiment, quoi. Il disait on peut gagner et tout. Donc forcément, entre les deux tours, il avait pris un gros coup sur la tête, quoi, comme beaucoup à l'époque. Et il me dit mais moi au deuxième tour, je vais pas voter, quoi. Je lui dis bah si quand même. Moi, je pense qu'il faut voter Hollande. Il me dit, ouais, mais Hollande, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Il va faire des trucs sur lesquels je serais pas d'accord. Je dis, mais moi, c'est pareil. Mais c'est pas parce que je vote Hollande que je lui donne un blanc-seing pour faire ce qu'il veut, quoi.
Bien sûr.
C'est celui que je choisis parmi ceux qu'on me propose. Après, ça m'empêchera pas, et on l'a fait ici souvent, de critiquer à la moindre occasion tout
moi
ce
aussi,
qu'il va faire.
Moi aussi, j'ai voté Hollande pour battre Sarkozy, et ça m'a pas empêché d'aller manifester contre la loi travail et tout le reste, quoi. Bien sûr.
C'est l'élection, c'est pas une profession de foi ou.
C'est pas les pleins pouvoirs.
Voilà,
tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi.
Voilà. Les mots de la fin.
C'était calculé pour.
Tristan nous fait passer le message comme quoi on a atteint
le
terme de cette émission.
Ciao, on se retrouve dans 15 jours pour une spéciale centième des Roquets Rouges. Et voilà, et bien ciao, faites ce que vous voulez.
Bisous.
Salut.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
side. They want.
Les Rock et Rouge sur CFM.